Get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier !
Salut Théo !
Et on va clôturer ce mois comme tous les autres avec notre saga Bowie dont c'est déjà le 6e épisode. On avait laissé notre bon David en 74 avec la sortie de Diamond Dogs. Aladdin Sane et Ziggy Stardust avaient laissé la place à Halloween Jack et la cocaïne était devenue la nouvelle vitamine C de Bowie. Dans l'émission de ce jour, on va se pencher sur les deux albums suivants, à savoir Young Americans et Station to Station. Et c'est d'ailleurs dans cet album qu'on rencontrera un nouveau personnage de Bowie, moins fréquentable que les autres, le Thin White Duke même. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à Young Americans et on va s'écouter la première piste qui porte le nom de l'album. Voici Young Americans.
You want the young American.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Vous l'aurez compris, c'est jour de Saga Bowie. On a pu le constater dans les émissions précédentes, David Bowie est un personnage haut en couleur et en perpétuel changement. Mais s'il passe son temps à évoluer, Gauthier, c'est qu'il y a une raison.
Alors, il faut effectivement qu'il poursuive sa mue, notre ami. Il quitte le côté british de sa carrière, on l'a dit, il quitte définitivement l'Angleterre. Il quitte aussi le son glam qu'il a porté déjà pendant des années pour essayer de s'ouvrir justement à ce marché américain qu'il aime tant, comme beaucoup d'artistes anglais de l'époque.
Et, ouais.
Et pour aussi ne pas tomber dans les tréfonds de l'oubli, comme certains groupes glam des années 60, début 70, eux l'ont fait, comme on l'a déjà cité, mais on le recite, par exemple T-Rex, dont la carrière ne sera pas aussi longue que celle de David.
Ah, ça c'est sûr. Et donc Bowie avait quitté son Angleterre natale pour s'établir aux États-Unis et il s'y plaît. Il s'y plaît tant que l'une des musiques les plus populaires du moment là-bas va l'inspirer pour de nouveaux sons, Gauthier.
Oui, il avait fait un peu pour Aladdin Sane quand on en avait parlé, puisqu'il avait puisé pour cet album dans le rock américain qu'il découvrait un peu à l'époque. Bon, pour Young Americans, le rock américain, c'est bon, il en a fait le tour. Et donc, il découvre un autre son, le son soul, hein, de cette ouais. musique noire initialement.
Essentiellement.
Mais il le découvre par un aspect un peu plus particulier, puisqu'il va se mettre à faire ce qu'on appelle du blue-eyed soul.
Qu'est-ce que c'est le blue-eyed soul?
Eh ben mon pof, t'es où, je l'ai découvert comme toi. Alors, pour ceux qui l'ont pas, c'est la soul des hommes aux yeux bleus, quoi. En gros, enfin des gens aux yeux bleus. En fait, c'est de la soul, mais interprétée par des gars blancs, tout simplement. Et l'anecdote est assez marrante, en fait. C'est venu d'un dénommé Georgie Woods, un DJ de radio de Philadelphie. Alors, dans les années 60, 64 pour être plus précis, qui en fait à l'époque passe des CD de rhythm and blues et de soul, hein, donc une radio plutôt orientée noire, on sait qu'à l'époque c'est assez clivé,
ouais.
Et il passe notamment les CD d'un groupe qui s'appelle les Red House Brothers, mm-hmm. Et notamment une chanson d'eux que je vous invite à aller écouter, You Have Lost the Loving, That Loving pardon, Feeling, et donc en pensant que ces gars sont des noirs, hein, puisqu'ils passent de la musique noire, et le jour où il va les inviter en studio pour les interviewer, il va se rendre compte qu'ils sont blancs. Et il va leur dire, voici mes frères de l'âme aux yeux bleus, donc voici ouais. mes frères de Blue Eyes Soul. En gros, il s'est rendu compte que des blancs pouvaient faire aussi de la soul.
Et oui, bien sûr. Et Gauthier, on l'a vu, la galaxie Bowie est comme lui en perpétuel mouvement. S'il en est l'astre principal, les satellites qui gravitent autour de lui vont et viennent. Et il y en a deux qui vont avoir une importance fondamentale pour Bowie dans sa recherche justement de Blue Eyed Soul.
Oui, et aussi de composition, on en parlera sur les deux prochaines émissions. Alors, surtout qu'il ne se jette pas David Bowie dans la soul type Motown que tout le monde connaît un peu, hein, Aretha Franklin, etc., etc. Et lui, il va plus se plonger dans le son de Philadelphie. C'est d'autres groupes, c'est plus les...
C'est pas Détroit, c'est Philadelphie.
C'est Philadelphie, c'est un autre type de soul. C'est maintenant j'ai bien évidemment les OJs par exemple, les je vais plus avoir de noms maintenant que je vais essayer de les citer, les Eastless Brothers notamment, enfin une soul qui est vraiment géniale. Moi je préfère la soul de Philadelphie par exemple à la soul de Détroit, et c'est deux gars qui vont un peu l'initier à ça. Alors un choriste qui va un peu rencontrer David Bowie à l'époque, Luther Vandross, alors vous connaissez peut-être pas son nom et c'est bien dommage, ce petit gars a fait une carrière monumentale après, quand David Bowie le rencontre il est assez peu connu puisqu'il a vendu après 25 millions d'albums, il a gagné 8 Grammy, ça vous pose
c'est
un peu
pas
le...
rien.
Voilà, mais mettez vous sur Spotify par exemple et regardez Luther Vandross, vous allez reconnaître certaines de ses chansons. Et un autre gars beaucoup plus important qui s'appelle Carlos Alomar, Alomar pardon, excuse-moi, un guitariste qui va quasiment prendre
à la vie Alomar
qui était déjà présent lors de la tournée de Diamond Dogs, mais qui va prendre beaucoup plus de place dans les compositions même de David Bowie. Il va lui faire découvrir cette musique soul, mais aussi beaucoup apporter cette guitare très particulière qu'on peut entendre notamment chez Nile Rodgers. On reparlera de Nile Rodgers plus tard pour David Bowie. Faut dire que Carlos Alomar a tourné déjà avec James Brown, Chuck Berry et Wilson Pickett, donc il a déjà vu des grands.
Ouais, en effet. Et les explorations, Gauthier, ne sont pas que musicales. Bowie va également poursuivre son expérience cocaïnesque.
Ah, alors oui, malheureusement, il se truffe le nez allègrement, notre ami, mais c'est pas mal, on va dire, pour sa période créative, puisque en découvrant la musique noire, il va aussi découvrir la particularité un peu d'enregistrement de la soul et tout, à savoir beaucoup plus d'impro, beaucoup plus de laisser aller en studio. Ça aura une importance fondamentale dans la suite de la carrière de David Bowie, qui va découvrir qu'on n'est pas obligé d'arriver en studio tout près, on peut laisser le chant venir, les guitaristes faire des petites impros, etc., etc. Et l'instinct. Quand t'es sous cocaïne matin, midi et soir, ça te permet de rester plus longtemps en studio.
C'est sûr.
Voilà.
Et c'est également durant cette période que David Bowie va fréquenter une autre star anglaise que l'on retrouve régulièrement dans Therapy Pop, c'est John Lennon, Gauthier.
Oui, attention, rencontre de titans.
C'est clair.
Puisqu'effectivement, Bowie et Lennon vont se lier d'amitié pour le peu de temps qui reste pour Lennon sur Terre, puisqu'il mourra quelques années plus tard. Ils vont enregistrer ensemble, notamment pour Young Americans, deux chansons. Alors, Across the Universe, donc une reprise des Beatles vraiment pas ouf. Et puis, ils resteront en studio et Lennon participera très fortement, si ce n'est exclusivement, à la composition d'une autre chanson pour cet album qui sera un peu le carton absolu de Young America et qui permettra notamment à David Bowie d'avoir son premier single numéro 1, c'est la chanson Fame. Force est de reconnaître que quand Lennon a, quand même apporte sa patte, c'est quand même souvent un gage de réussite. Bon, hormis sur Across the Universe, mais faut quand même reconnaître aussi que Bowie, les reprises, c'est pas forcément son truc. Ouais.
On s'en était rendu compte dans Pin-Ups. L'ennui pour Bowie, justement, je reviens à John, c'est que John, malgré les brouilles qu'on avait évoquées dans la saga Beatles et que tout le monde connaît, il fréquente encore le bon Paulo McCartney et que ce dernier, eh ben, il est pas tendre avec Bowie.
Ouais, l'anecdote est assez croustillante. Effectivement, un soir, John, Paul et Linda McCartney sont dans la suite de David Bowie, donc à l'hôtel Pierre, je crois, à New York. David Bowie, tout excité de faire écouter son dernier album aux deux Beatles, et donc il le met une fois, deux fois. Et à partir d'un moment, Paul McCartney propose avec son flegme tout anglais s'il n'est pas possible d'écouter un autre album, comprendre que ça ne lui met pas plus que ça à ce bon McCartney.
C'est bon, j'ai ma dose.
Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas le bif justement entre Lennon qui jouait aussi quand il entend Fame. Voilà,
il y a peut-être un petit peu de jalousie. Enfin, ce n'est pas trop le genre des Beatles, mais...
Non.
Et je vous le disais, la galaxie Bowie est sans cesse en mouvement et il faut reconnaître qu'on a un petit peu de mal à suivre qui l'accompagne, sur quel album, Gauthier ?
Ouais, alors c'est un peu le problème, effectivement, quand tu changes tout le temps et même de pays, c'est que les Spiders, par exemple, dont on a parlé pendant pas mal d'émissions, il y a quasiment plus personne, si ce n'est Visconti, qui est encore là, mais qui a raté les débuts. On l'a dit, ouais. Alomar arrive et prend un peu la place de Branson à la guitare. Voilà, ça ne fait que muer parce que David Bowie mue et qu'il n'a pas le temps. Bon, on avait dit aussi que, par exemple, pas mal de Spiders étaient partis pour des raisons de cachet, parce qu'ils les étaient pas très très bien payés, ouais, par rapport aux autres et tout, mais voilà. Bon, malheureusement, on peut pas vous faire...
Et de Scientologie
également.
Bon, on se marque une petite pause dans l'émission, on s'écoute Right.
Sometimes keep it back up there, good at it.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Therapy Pop. On vient de s'écouter Right, qu'on entend d'ailleurs toujours en fond, Right de l'album pardon, Young Americans, Satané Wasabi. Et dans la seconde partie de l'émission, on va laisser cet album pour s'intéresser au suivant, Station to Station. Toutefois, Gauthier, un dernier mot sur Young Americans. Quel accueil est-ce que la presse lui a réservé?
Alors, pas forcément très fan de la nouvelle production de David Bowie, même si dans l'ensemble, elle saluera la témérité de l'artiste qui, encore une fois, est capable de se renouveler. Bowie, lui, n'aura pas du tout cette vision. Et il dira que si Diamond Dogs avait été une sorte de tube à essai, Young American, c'est pour lui un album beaucoup plus personnel et qui lui a, je cite, donné confiance en lui, comme s'il en avait déjà besoin. Et là, a trouvé notamment sa voix, alors avec un E et avec un X, pour devenir un vrai musicien. Donc, quand même une importance pour notre cher David. Et un bon album, quand même, ils sont vaches, les mecs.
Et s'il a trouvé sa voix, est-ce qu'il a retrouvé le chemin de la création, Gauthier?
Alors, il a retrouvé le chemin de la création et surtout du grand n'importe quoi. David Bowie, à cette période, va s'exiler à Los Angeles, va se sniffer, à s'en péter les naseaux, va se brancher avec un peu d'occultisme, de magie noire. Le garçon est enfermé à longueur de journée, dessine des pentagrammes. Ça va pas très bien.
Ça va très loin.
Il pense qu'il est victime lui-même de maladiction, comme quoi dans South Park, ils avaient raison, Théo. La drogue, c'est mal voyé. c'est très très mal, Théo.
On est en effet à deux doigts de le perdre là. Et t'as une citation du prophète Soligny qui résume assez bien la situation de Bowie à l'époque.
Ouais, on en a parlé de son livre chez Gallimard, je vous renvoie vers d'autres émissions. On avait cité ce super bouquin sur l'histoire de David Bowie, et je le cite dans le texte. Depuis 1972, à mesure qu'enflait sa popularité, Bowie avait sombré graduellement, dans un état paranoïaque et dépressif, de plus en plus critique, dont il ne commencera à émerger véritablement qu'à Berlin. On y reviendra à Berlin. Ses affaires sont mal en point, son mariage pantelant, ses lubies devenues obsession et ses craintes gauchises en terreur, tout ce micmac alimenté par une curiosité maladive et insatiable, les choses de l'esprit de la vie ont été les terreaux de l'art que, jusqu'à Scary Monster en 1980, il prodiguera dans une certaine douleur, mais sans effort visible. Au bout du compte, la métamorphose ne sera qu'une succession d'anamorphoses. J'aime beaucoup ce terme. C'est important d'en parler de cet état dépressif de David Bowie et de cet état surtout paranoïaque, puisqu'on se rappelle, on l'avait dit au tout début, qu'il y a des petits antécédents familiaux, malheureusement. C'est donc un David Bowie qui n'est vraiment pas au top de sa forme à la sortie de Young America.
Et encore une fois, Bowie va se séparer d'un de ses points d'ancrage, et pas des moindres, Gauthier. Cette séparation va l'affecter profondément.
Oui, mais elle lui fera aussi un peu du bien financièrement, un minima, puisqu'il va quitter son manager de l'époque. Il le dira de lui-même, des millions de dollars de ses gains futurs ont été cédés dans ce qui était des conditions uniques et généreuses pour Dufresne. C'est lui, le fameux manager, on en avait parlé.
Oui.
C'est effectivement douloureux pour lui, mais on l'a vu, les Stones, ça leur est arrivé, les Beatles, ça leur est arrivé. C'est à cette époque donc qu'il s'enferme au 20th Street West à Los Angeles, en passant il aurait passé des semaines de hurlements qu'on aurait entendu à travers les portes de son grenier verrouillé.
L'enfer.
Ouais, ça va pas.
On voit que c'est vraiment pas la grande forme, en effet. Mais par un de ces tours dont il a le secret, Bowie va réussir à sortir de ce qu'il faut bien qualifier de maxi-dépression.
Oui.
Comment est-ce qu'il fait, Gauthier?
Avec un album, avec Station to Station, dont il ne se souvient même pas lui-même d'avoir procédé à la composition. C'est pour dire dans quel état il était. Je le cite, mais qui sera, et là je cite le magazine Pitchfork, la transition tactique la plus importante d'une carrière construite sur la réinvention esthétique. C'est peu dire. Comprenez que vous avez un gars qui quasiment à chaque album change de style et révolutionne un style. Et bien ça, Station to Station, et à bien des égards je suis d'accord avec Pitchfork, est la plus grande révolution d'un mec en soi révolutionnaire. C'est un album démentiel.
C'est vrai que si Pitchfork le dit, on peut parler d'album de transition. Un album de transition, mais également de mélange des genres, un mélange auquel on n'aurait pas forcément pensé, Gauthier.
Non, et c'est aussi là le génie de Station to Station, puisque David Bowie va rester sur ce son un peu soul. Il va aussi un tout petit peu déjà s'inspirer du disco américain naissant, et il va le mixer avec le krautrock allemand.
Cher à ton cœur.
Voilà, Neu, Kraftwerk, etc. Dans un album hommage absolument somptueux, ça c'est incontestable, mais dans un album, à mon avis, que personne n'aurait tenté à part lui. C'est comme si aujourd'hui tu mixais du Jul avec du Mozart, si tu veux. Lui l'a fait, parce que c'est David Bowie, il peut tout se permettre.
Je testerai pas.
Non.
Et pour changer, c'est un nouveau personnage qui vient rejoindre le cerveau déjà bien rempli de Bowie, mais celui-ci, il aurait pu s'en passer, Gauthier.
Oui, donc c'est le fameux Thin White Duke, comme tu l'as dit très justement, donc effectivement, dont David Bowie ne parlera pas trop dans la suite de sa carrière. C'est un personnage qui flirte avec le Troisième Reich, notamment à l'époque, beaucoup de controverses de David Bowie. On le verra notamment, par exemple, quand il reconnaîtra un groupe de fans à l'extérieur de la gare Victoria, les saluant avec un bon vieux salut nazi que notre bon Elon Musk n'aurait pas renié. Autre exemple, hein, Adolf Hitler, je cite David Bowie, était l'une des premières rockstars aussi bonnes que Mick Jagger. Je rappelle qu'on parle d'un mec qui a génocidé des gens, on est en plein anniversaire commémoratif de Auschwitz. Bon voilà, ouais. Peut-être pas ouf de comparer Jagger à Adolf Hitler ou de qualifier d'Adolf Hitler de plus grande rockstar.
Jagger aura apprécié certainement.
Ça lui a fait sûrement un peu de pub, donc il a dû aimer.
Bon, c'est pas évident de rebondir sur une telle déclaration, mais tout ceci, Gauthier, va être occulté par la qualité de l'album.
Ah, c'est un album, alors on fera très probablement un jour, Théo, une émission entière dessus, voire deux émissions. C'est un
album. On consacre une année à Bowie.
Oui, mais on parle pas des albums, on parle de la vie de Bowie. Mmh. Et un jour, on se concentrera sur Station, qui est un album absolument monumental, absolument fondamental dans l'histoire de la musique. Encore une fois, et je peux pas mieux le dire que Pitchfork, c'est l'album le plus révolutionnaire d'un mec qui a laissé son empreinte dans la musique pop comme l'un des plus grands révolutionnaires de ce style, de son genre. Donc voilà, c'est un album immense et peut-être pour moi le plus beau de David Bowie.
Et donc il est toujours à Los Angeles, il passe son temps à se repoudrer le nez, ça change pas. Avec un peu de recul, il avoue que cette addiction l'a pas vraiment aidé, Gauthier.
Je le cite également. Si vous voulez vraiment perdre tous vos amis, toutes les relations que vous avez à jamais chères, la cocaïne et la drogue avec laquelle il faut le faire. Il aura à peu près la même situation pour parler de Los Angeles qui n'a pas gardé plus que ça dans son cœur. Dans une tentative désespérée de sauver tout à la fois sa santé physique, bien évidemment, parce que la drogue, c'est pas ouf, mais aussi sa santé mentale, parce que la drogue, c'est pas ouf, David Bowie quittera Los Angeles pour partir en Europe. Alors d'abord avec une petite escale à Genève, on est en 1976, où il prendra le temps de rejoindre son pote Iggy Pop pour finalement finir en 77 à Berlin pour une page mythique de son existence. Théo, mais c'est une page qu'on tournera le mois prochain, si tu veux bien.
Il passe d'une neige à une autre et c'est pas plus mal pour lui. C'est une page, Gauthier, que cette page mythique nous ouvrirons donc le mois prochain. Je sens que tu en salives d'avance d'ailleurs. Les amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec Golden Years, qui est la deuxième piste de Station to Station, parce que la première, Station to Station, est beaucoup trop longue.
Mais qui est immense.
Qui est immense,
chanson.
Mais bon, voilà, ça aurait duré toute l'émission. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut. Lights taking you nowhere.
Angel,
come love, baby.
Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young.
Come love, baby.
There's my fever lost, that's all. Once I'm begging you, save a little soul.
Last night they loved you, opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love up the baby.
In walked luck and you looked in time.
Never look back, walk tall, act fine.
Come love up the baby.
How sweet will you, baby, for a thousand years?
Walk this hole and touch you in these golden years.
Go.
Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long.
Don't cry, my sweet, don't break my heart.
Doing all right, you've gotta get smart.
Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Come love up the baby.
Run for the shadows,
run for the shadows,
run for the shadows in these golden years.
There's my baby lost, that's all.
Yeah.
lives, taking you nowhere.